Donc je vais vous parler d'un mot, le mot sérendipité. Alors c'est un mot qui a une longue histoire et qui, depuis le début des années 2000, a rencontré un succès remarquable qui va en s'amplifiant d'ailleurs, aussi bien dans les sciences naturelles que dans les sciences humaines et sociales, mais aussi dans les champs de la création artistique et de l'innovation. En 2002, je fais un bref rappel, l'historienne Elinor Barber et le sociologue des sciences Robert Merton publiaient un livre sur la sérendipité. En 2009, paraissait un ouvrage de la juriste Danielle Boursier et du biologiste Peg Van Andel, suivi d'une décade à Cerisy, et qui rassemblait d'ailleurs des chercheurs de toutes disciplines. Puis le mot a été élu mot de l'année par le magazine Sciences Humaines, dans la foulée du colloque, et cette élection a été couronnée par l'entrée du mot dans deux dictionnaires de la langue française, en 2011, le Robert, le Petit Robert et le Larousse. Mais avec comme définition la capacité à faire une découverte inattendue, par hasard, notamment scientifique, et à en saisir l'utilité. Autre définition plus simple, la découverte par hasard. Parallèlement, la diffusion de ce mot s'amplifiait avec Internet, sur Internet, avec des usages assez divers, hein, allant des pratiques de recherche d'information jusqu'à des pratiques créatives, en passant par une instrumentalisation du mot à des fins commerciales. Bon, actuellement, les usages de ce mot sont très divers. Hein. On jette un rapide coup d'œil sur Internet et qu'est-ce qu'on lit ? On lit tantôt c'est un don magique de faire des trouvailles, tantôt il s'agit d'une posture qui consiste à chercher quelque chose et à trouver autre chose. Et pour finir, ça peut être l'art de trouver sans chercher. Donc là, on est devant le coup de chance, devant le hasard heureux, etc. À tel point que certains ont d'ailleurs même proposé de remplacer le mot par fortuité. Entre autres, l'Office québécois de la langue française. Eh bien, il y a un flou qui entoure cette notion, on le voit bien, hein, et qui porte d'ailleurs la trace des ambiguïtés de la définition du créateur du mot, hein, Horace Walpole, mot qui a été créé au milieu du XVIIIe siècle par un écrivain anglais, et qui l'a défini comme la découverte par hasard et sagacité de choses que l'on ne cherchait pas. Donc c'est une définition qui date de 1754, Walpole écrivait une lettre à l'un de ses amis. Première remarque, une grande partie des utilisateurs du mot n'ont retenu que le hasard, ou bien la chance. Ils ont totalement occulté la sagacité, qui était dans la définition de Walpole. Or, pour qu'il y ait découverte, il faut prêter attention à ce qui survient par hasard, ou par erreur, ou par accident. Et surtout, il faut l'interpréter. Or, l'interprétation ne relève pas du hasard, bien évidemment. Et cet élément de hasard n'est rien tant qu'il n'est pas perçu par une subjectivité interprétante. Le hasard est partout. Le hasard se manifeste dès que vous sortez de chez vous, partout. Donc si vous ne prêtez pas attention à ce qui survient par hasard, ça passe inaperçu. En outre, une découverte scientifique, bien évidemment, n'est pas un donné. Une découverte scientifique, c'est un processus qui s'inscrit dans une temporalité et dans un contexte. Et cette focalisation sur le hasard, c'est pas un hasard, justement. Elle met en fait l'accent sur la dimension imprévisible et non planifiable de la sérendipité. Elle est profondément révélatrice, comme on va le voir, du besoin de liberté dans la recherche. Une recherche qui s'inscrit mal d'ailleurs devant les programmes actuels hein, où on donne des objectifs prédéfinis et où on s'interdit de trouver des choses en cours de route qui pourraient être intéressantes. Deuxièmement, dire que la sérendipité consiste à découvrir ce qu'on ne cherchait pas, eh bien c'est un peu une tautologie. Hein, parce que comme on ne peut chercher que ce qui n'est pas encore connu, eh ben on ne sait pas ce qu'il faut chercher. Une découverte est toujours inattendue. Et si elle est attendue, ben ce n'est pas tout à fait une découverte. Ce n'est plus tout à fait une découverte. Alors c'est pour démêler ces questions un peu intrigantes que j'ai entrepris une enquête historique et épistémologique sur la notion de sérendipité. D'abord, je me suis intéressée au conte qui est à l'origine du mot, un conte persan très ancien, puis au sens que Walpole lui a donné, et aussi aux fictions qui ont repris le mot ou l'idée, aux textes littéraires et savants qui en ont éclairé le sens et la portée. Parce que les mots ont une histoire, hein, ils portent la trace des questionnements, des interprétations, des enjeux idéologiques, des imaginaires qui en ont façonné le sens, et puis ils se diffusent dans des groupes sociaux, ils se diffusent socialement, et ils évoluent avec le temps. Eh bien, cette enquête m'a fait découvrir que ce mot qui nous vient de la littérature, a priori très éloigné de la pratique scientifique, eh bien, il désigne en fait ce qui est au cœur du processus de découverte. Cette enquête m'a fait découvrir que toute découverte importante implique la sérendipité. Et puis cette enquête permet de saisir également la valeur heuristique du concept et les enjeux de son succès aujourd'hui. Alors je vais tout d'abord dire quelques mots sur le conte persan qui est à l'origine de la sérendipité. C'est un conte qui est issu lui-même d'un motif fixe, que j'ai appelé un motif fictionnel millénaire, un motif qui a circulé entre l'Inde, le Moyen-Orient, avec diverses variantes, tantôt de manière autonome et tantôt de enchâssé à l'intérieur d'autres fictions. Alors on le trouve dans le Talmud, dans une version assez différente hein, de ce qui va devenir après dans Voyages et aventures des trois princes de Serendip. On le trouve dans des récits indiens, persans, arabes, on trouve une version également dans les Mille et Une Nuits. Et ce motif, eh bien, c'est un prototype du récit d'enquête. Alors je vais vous parler de la version Voyages et aventures des trois princes de Serendip, qui est arrivée en Italie au XVIe siècle. Trois frères, donc, là ce sont les princes de Serendip, d'où le nom Serendipité. Serendip étant l'ancien nom de l'île de Ceylan, eh bien, ces trois frères refusent de succéder à leur père. Alors le roi, leur père, fait mine de se fâcher et les envoie voyager à l'étranger pour parfaire leur éducation. Jusque-là, rien de très bizarre. Notons quand même qu'au passage, ce roi philosophe a fait former, a veillé à ce que ses fils soient formés à toutes les sciences. Alors au cours de leur voyage, les princes croisent un chamelier, très inquiet parce qu'il a perdu un de ses chameaux. Et est-ce que par hasard, vous ne l'auriez pas vu ? Alors, comme les princes ont remarqué auparavant les traces du passage d'un animal, le premier demande est-ce qu'il est boiteux, le second est-ce qu'il est borgne, et le troisième est-ce qu'il a perdu une dent. Le chamelier répond que oui, hein, c'est bien son chameau, et puis il leur demande où est-ce qu'ils l'ont vu. Et les princes lui répondent ils l'ont laissé loin derrière eux. Et puis le lendemain, il croise à nouveau le chamelier, qui cherche toujours son chameau, et les princes lui donnent alors une nouvelle série de traits descriptifs de l'animal. Le chamelier est persuadé que les princes se moquent de lui, et il les fait arrêter. Et puis finalement, le chameau est retrouvé. Et puis c'est l'empereur en personne qui vient interroger les princes et pour leur demander mais comment se fait-il que vous ayez pu décrire de manière aussi précise un animal sans l'avoir vu. Alors le premier des trois princes répond qu'il a observé des traces de pas qui étaient plus enfoncées dans le sable que les autres, donc c'était que l'animal était boiteux. Le deuxième a remarqué que l'herbe n'était broutée que d'un seul côté du chemin, alors qu'elle était meilleure de l'autre, donc c'est que l'animal était borgne. Et le troisième dit enfin, bah écoutez, moi j'ai trouvé des, j'ai vu des petites bouchées d'herbe qui jonchaient le chemin, et puis elles étaient de la largeur d'une dent de chameau, donc je me suis dit que ça devait être qu'il devait lui manquer une dent. Alors le roi et l'empereur est tellement impressionné par le raisonnement des princes qu'il leur demande de devenir ses conseillers. Et puis l'histoire se poursuit avec d'autres aventures. Alors c'est un mode de raisonnement qu'on reconnaît bien, hein, c'est le mode de raisonnement des chasseurs, mais c'est aussi celui des futurs détectives de romans policiers, bien sûr. Ce sont les Sherlock Holmes capables de remonter la piste d'un crime en interprétant toutes sortes de traces ou d'indices. Et puis donc, lorsque ce conte arrive à Venise, au XVIe siècle, par le port de Venise, il va rencontrer un énorme succès. Il est traduit dans toute l'Europe, en italien, en allemand, en français, en anglais, en hollandais, en danois, et j'en passe. C'est ce motif fictionnel qui va retenir l'attention au XVIIIe siècle de Voltaire, d'une part, et de Walpole, d'autre part. Voltaire, lui, va en tirer une adaptation magistrale. Je ne sais pas si vous avez lu Zadig ou La Destinée, c'est le chapitre 3, Le chien et le cheval. Alors, il transforme l'histoire, il s'inspire de la science de son temps et il transforme l'art de l'interprétation des indices en méthode d'enquête. Et pour mieux démontrer la capacité heuristique de ce raisonnement indiciaire, il introduit le suspense narratif. C'est-à-dire qu'il cache au lecteur que Zadig n'a pas vu les animaux. Dans toutes les versions antérieures, on sait, le lecteur sait que les trois frères n'ont pas vu l'animal, pardon. Tandis que Voltaire le cache au lecteur. Et donc, si vous voulez, il réserve l'explication pour la fin. Et ça, c'est très important, parce qu'il introduit le suspense, si vous voulez, le suspense narratif dont le futur roman policier va faire son miel, hein, au niveau des techniques narratives. Mais rien, ni dans la méthode de Zadig, d'ailleurs, ni dans les découvertes des princes de Serendip, n'est dû au hasard. D'ailleurs, pour le philosophe, Voltaire est un philosophe déterministe, et pour lui, le hasard n'est rien. Il dit, nous avons nommé ainsi l'effet que nous voyons d'une cause que nous ne voyons pas. Walpole, de son côté, invente un mot. Il invente le mot serendipity en anglais, dans une lettre qu'il écrit à un de ses amis en 1754. C'était d'ailleurs un talent qu'il possédait, hein, bien connu de son entourage. Il aimait inventer des mots. Il avait un grand talent pour ça. Des mots un peu bizarres. Mais en fait, si on veut saisir le sens de ce mot, il faut être attentif au texte de la lettre et au contexte. Walpole, c'est le troisième fils du premier ministre anglais, Robert Walpole. Et il est aussi l'inventeur du roman gothique. Et c'est un précurseur du romantisme. Il était très critique, je parle du fils, hein, Horace Walpole, il était très critique vis-à-vis du dogme rationaliste des Lumières et du scientisme de son temps, et il défendait l'idée que l'imagination, en tant que forme de l'expérience humaine, eh bien, jouait un rôle très important dans l'invention. Et en fait, c'est en réfléchissant à sa propre faculté de découverte, et par association d'idées incidentes, qu'il invente le mot serendipity. C'est-à-dire qu'au moment où il raconte à son ami qu'il vient de faire, comment il vient de faire d'ailleurs une découverte en feuilletant un vieux livre d'emblèmes vénitiens, eh bien, le souvenir à ce moment-là du conte de Serendip lui revient en mémoire. C'est un conte qu'il a lu dans sa jeunesse. Et on peut dès lors comprendre pourquoi il associe le hasard et la sagacité. Dans sa définition, la sagacité est plus du côté de la raison, mais le hasard stimule la liberté imaginative, les idées incidentes. Les idées incidentes, ce sont des idées non cherchées. Hein. Ce sont des idées, en fait, qui nous révèlent le sens de ce qu'on découvre. Alors, Vous avez d'un côté Voltaire qui rationalise le processus de découverte. Hein, il décrit très bien, Zadig analyse les traces, il prend des mesures, il mesure la queue du cheval, il mesure la distance qui sépare par rapport à la route, il compare les données, il les met en relation, etc. Et lui, il parle de profond et subtil discernement. Alors que Walpole invente un mot qui désigne le raisonnement imaginatif ou intuitif à l'origine de la découverte. Et il souligne son caractère inattendu, justement, et son caractère accidentel. Eh bien, la sérendipity, telle que l'a définie Walpole, c'est une sorte de processus de prise de conscience. Et c'est un processus qui implique un dialogue entre la raison et l'imagination, entre le conscient et le non-conscient. Et le pouvoir de découvrir, d'ailleurs, découle de cette interaction. Alors, au cours du XIXe siècle, ce mot va rester en sommeil, il reste enfoui dans la très très volumineuse correspondance d'Horace Walpole, mais l'idée qui est derrière le mot va circuler avec Zadig. Parce que tout le monde a lu Zadig au XIXe siècle. Et l'idée va se déplacer de la fiction vers les sciences, de la paléontologie à la médecine, en passant par la sémiotique et la psychanalyse. Ce sont toutes sciences qui pratiquent l'interprétation des traces comme indices et qui remontent des effets vers les causes. Alors vous avez en France Claude Bernard, Pasteur, qui décrivent de manière très très précise la sérendipité, même s'ils ne connaissent pas le mot. Pasteur a parlé de la surprise, a parlé de l'esprit préparé, du rôle du hasard, etc. Hasard qui ne vaudrait pas grand-chose si les esprits n'étaient pas préparés à le recevoir. En Angleterre, vous avez un biologiste darwinien qui s'appelle Thomas Huxley, qui se réfère directement à la méthode de Zadig pour expliquer les fondements de la paléontologie. Aux États-Unis, le philosophe sémioticien Charles Anders Peirce formalise ce mode de raisonnement imaginatif en le nommant abduction. Freud lui-même s'en sert pour reconstruire des chaînes causales par la psychanalyse, et il l'appelle association d'idées incidentes. Mais contre toute attente, c'est le mot sérendipité qui va entrer dans le vocabulaire scientifique au XXe siècle, et qui va se populariser. Et il entre justement dans le vocabulaire scientifique parce que c'est un mot qui intègre le rôle de la subjectivité, le rôle de l'intuition, le rôle de l'imagination, sans l'opposer à la raison. Alors comment un tel mot issu de la fiction, apparemment très éloigné des pratiques scientifiques, a-t-il été adopté par les scientifiques anglo-saxons ? Walter Cannon et Robert Merton ont été les deux figures clés de ce transfert dans les années 1930-40. Walter Cannon, c'est un savant humaniste. Il est professeur à la faculté, c'est un physiologiste. Il est professeur à la faculté de médecine de Harvard. Et il s'intéresse à la physiologie des émotions, notamment au stress. Et il a observé que les situations émotionnelles fortes occasionnent différents changements dans l'organisme. Des changements, au départ, qui lui paraissent pas du tout corrélés. D'un côté, l'accélération du rythme cardiaque, l'augmentation du sucre dans le sang, la sécrétion d'adrénaline, etc. Et puis, il raconte dans son autobiographie comment une nuit il était préoccupé par ça, et en repensant à tous ces changements, l'idée l'a traversé comme un éclair, que tous ces changements pouvaient très bien s'intégrer dans un effort du corps, un effort supérieur du corps, dans la préparation au combat ou à la fuite. Et il avait découvert la neurobiologie du stress. Et suite à cette découverte sérendipienne, Il crée en 1926 le concept d'homéostasie pour désigner le processus de maintien de la stabilité interne du corps face aux changements extérieurs. Et ce concept deviendra plus tard l'une des clés de voûte de la cybernétique avec Robert Wiener. Cannon fait partie de ces savants qui sont très attentifs au vécu de l'expérience subjective. Et quand il parle de son expérience de la sérendipité, il met l'accent sur les connaissances conscientes ou non conscientes du chercheur, qui sont sollicitées par les événements imprévus ou des faits imprévus. Et pour lui, la sérendipité dépend de des connaissances préalables, du savoir, de la compétence du chercheur, des questions préalables qui orientent sa recherche et qui sont seules capables de le conduire à prêter attention ou à donner du sens aux faits inattendus ou surprenants qui se produisent. Il cite parmi d'autres exemples la découverte de la pénicilline. Fleming rentrait de vacances et il s'aperçoit qu'il avait laissé une culture de staphylocoque et il s'aperçoit que sa culture de staphylocoque s'est dissoute au contact d'une moisissure qui était entrée de manière tout à fait incidente dans le laboratoire et qui avait contaminé la culture. En voyant ça, il est surpris. Il est surpris et très intrigué. D'ailleurs, il y a un petit film sur Internet, je ne sais pas si vous l'avez vu, où le réalisateur, c'est un réalisateur de la BBC, est resté très très longtemps, justement, pour filmer cette surprise de Fleming. On voit avec son collègue, il est devant sa boîte et il est vraiment en arrêt, quoi. C'est pendant assez longtemps. Qu'est-ce que font les bactériologistes normalement quand ils voient ça? Ils jettent la boîte, hein, ils jettent la culture. Mais Fleming, lui, était intrigué. Il avait autre chose en tête. Et contrairement à ce qu'on lui avait appris, il pensait que l'on devait pouvoir obtenir des substances non toxiques capables de tuer in vivo les bactéries. Et c'est pourquoi l'aspect bizarre de sa boîte de pétri prenait un sens nouveau pour lui. Alors inutile de préciser les suites de cette découverte qui a permis de sauver la vie à des millions de gens, mais il est important de souligner que c'est Fleming lui-même qui a pris la parole dans les colonnes du New York Times en 1949, et qui a fait connaître le mot sérendipité. Et il s'en est servi également pour affirmer le besoin de liberté des chercheurs. Il écrit, il est interviewé par un journaliste, on ne peut pas planifier la recherche fondamentale, pas plus qu'on ne peut programmer l'art ou la littérature, car les grandes découvertes se nourrissent de l'inattendu. On est en pleine période de débat sur la politique scientifique américaine de l'après-guerre. Et ce qui est en jeu dans ce contexte, c'est la reconnaissance de la part de créativité dans la recherche. Plus étonnant, le mot est adopté dans les milieux de la recherche appliquée, par exemple chez General Electric. Le directeur de General Electric de l'époque, qui s'appelait Irving Langmuir, a eu le prix Nobel de chimie en 1932, et il s'est fait l'avocat, il s'est vraiment littéralement fait l'avocat de la sérendipité, il a plaidé pour la sérendipité dans toutes les grandes institutions scientifiques américaines, et il décrivait la sérendipité comme c'est un enchaînement d'observations, de connexions imprévisibles qui génèrent des associations d'idées et ce sont ces connexions qui mènent aux découvertes les plus fructueuses, tant sur le plan des connaissances fondamentales que sur le plan des applications. Alors dans tous ces exemples, on voit que ce qui compte n'est pas tant le hasard, l'imprévu, mais plutôt la réaction de l'observateur. Ce que l'observateur voit dans le fait inattendu, qui survient par hasard, par erreur. Autrement dit, ce n'est pas le hasard qui compte, mais c'est la surprise qu'il cause. Et c'est sur ce point précis, d'ailleurs, qu'il y a une divergence de vue entre, dans la conception de la sérendipité, entre Walter Cannon et Robert Merton, qui est l'autre figure clé de la diffusion du mot aux États-Unis. Robert Merton était sociologue des sciences et lui rattachait la sérendipité au fait accidentel, à l'anomalie qui entre en contradiction avec les données établies. Il avait cité un exemple assez connu de découverte sérendipienne en sociologie. Il travaillait avec son équipe de sociologues dans une communauté, une résidence d'ouvriers créée dans la banlieue de Crafttown. Ces ouvriers habitaient auparavant dans une banlieue et là ils avaient été regroupés dans une résidence. Et ils sont allés enquêter pour voir quelles étaient les affiliations politiques, syndicales de ces communautés, du fait qu'elles étaient regroupées et qu'elles habitaient dans des résidences. Et ils se sont aperçus le nombre de fréquentations de réunions citoyennes, civiques, politiques, syndicales, augmentait chez les parents de jeunes enfants. Ce qui était complètement contradictoire avec l'idée que les parents, quand ils ont de jeunes enfants, restent plutôt chez eux. Donc, ils ont été surpris par ça et ils sont allés enquêter et ils ont interviewé plusieurs familles. Et la première réaction des familles, ça a été de dire « Ah, mais ici, il y a beaucoup plus d'adolescents qu'avant, que là où on habitait avant, pour garder les enfants ». Alors, les enquêteurs étaient surpris parce qu'ils ont regardé, ils ont comparé avec les situations précédentes, et en fait, il n'y avait pas plus d'adolescents, il y en avait même moins. Alors, ils ont continué, ils ont enquêté un petit peu plus, et puis ils ont fini par comprendre que, en fait, les gens connaissaient mieux leurs voisins et donc ils avaient l'impression connaissaient mieux les gens autour et ils avaient l'impression qu'il y avait plus d'adolescents pour garder les enfants qu'auparavant. Et en fait, ils se sont aperçus d'une chose très importante, c'est-à-dire que la perception sociale est fonction de la structure des relations sociales. Le fait d'être plus en confiance faisait Les adolescents en question existaient socialement pour les gens parce qu'ils étaient plus en contact et en confiance avec les gens de leur entourage. Donc ça, c'est une découverte importante, mais on voit bien quand même que Merton rattache ça à l'anomalie qui entre en contradiction avec les faits établis, mais on voit bien quand même que c'est le point de vue de l'observateur qui est important. C'est ce que l'observateur voit dans le fait qui est important. Et d'ailleurs, Pierre Bourdieu a relevé lui-même en 1968 que Merton insistait trop sur le rôle du hasard et pas assez sur la réceptivité à l'inattendu. L'expression « découverte par hasard » opère en effet un raccourci qui occulte la partie essentielle de la sérendipité. Walpole n'a jamais employé l'expression « découverte par hasard ». Il a parlé de sagacité accidentelle, ce qui est très différent. Le mot hasard est en fait un mot écran. Il empêche de saisir ce que la sérendipité désigne véritablement. L'art de prêter attention à ce qui surprend et d'en imaginer une interprétation pertinente. Dans le processus de découverte, l'élément accidentel ou l'anomalie n'est que le point de départ, finalement. Sans la réceptivité à l'inattendu, sans l'attention qui est nourrie de savoir, qui est nourrie d'expérience, l'attention du chercheur, sans la liberté d'imaginer une raison à ce qui étonne, Il n'y a pas de sérendipité, il n'y a pas de découverte. Il faut, alors on pourrait croire, parvenir à se laisser surprendre, en prendre conscience, puis imaginer une raison à ce qui étonne. Ça peut sembler, cette démarche sérendipienne peut sembler évidente, et en réalité, elle l'est beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que, paradoxalement, les savoirs transmis peuvent bloquer l'imagination. Être capable de se laisser surprendre, ça implique la remise en question des acquis, des idées préconçues, des présupposés théoriques. Tout ce qui est partagé finalement par la communauté à laquelle on appartient. Et beaucoup en fait peuvent hésiter, hein, beaucoup peuvent hésiter à se et renoncer à entreprendre une recherche exploratoire qui est incertaine. On ne sait pas à quoi on va aboutir, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et beaucoup peuvent hésiter aussi à enquêter hors des sentiers battus. Par manque de temps, on est pressé, on a d'autres choses à faire, par manque de moyens aussi, mais aussi par manque de liberté, quand l'organisation pour laquelle on travaille n'y incite pas ou ne le permet pas. Or, l'histoire des découvertes scientifiques montre au contraire qu'il est indispensable de s'écarter de ce qui est déjà connu. Et la sérendipité, en ce sens, on peut dire que c'est un outil épistémique qui fait bouger les paradigmes, les manières de voir, les matrices disciplinaires, les représentations du monde. Elle permet de découvrir de nouvelles relations entre des objets ou de construire un nouveau regard sur des objets nouveaux. Alors je vais prendre trois exemples d'inventions, de découvertes qui illustrent chacun à leur manière le processus sérendipien. L'association d'idées, la mise en relation d'indices, l'hypothèse explicative, la réflexivité. Alors d'abord l'invention de la montgolfière, 1783, un bel exemple d'association d'idées incidentes. Joseph Montgolfier, né en 1740, mort en 1810, Joseph Montgolfier travaille pour la papeterie familiale et qui est dirigée par son frère Étienne. Joseph est un passionné d'expérience, de science, c'est un utopiste. Il aime fabriquer des machines et il entreprend des expériences par pur plaisir. On est en 1782 à Avignon, on est en novembre, c'est la fin de l'automne. Il est venu là pour voir un client et il patiente à l'auberge en attendant son rendez-vous. Il y a un feu de cheminée, très agréable, il s'approche du feu pour se réchauffer, il feuillette ses échantillons de papier et qu'il doit montrer à son client plus tard, et puis il se réchauffe les pieds. Et parmi ces échantillons de papier, il y a une gravure. Une gravure qui commente et qui représente le siège de Gibraltar, un siège qui a duré 4 ans. Tout le monde parle de ce siège à l'époque, et il durait à l'époque depuis 3 ans. Et en fait, ce sont les Anglais qui parviennent à résister à un blocus, ils parviennent à résister aux bombardements et même aux attaques par la mer, et Joseph se dit, tiens, il faudrait y aller par les airs. Et il se penche vers le feu. Et là, à ce moment-là, l'air chaud gonfle sa chemise et ça l'amuse. Et par jeu, il fabrique un mouchoir, avec son mouchoir, pardon, une sorte de petit ballon. Et puis, à sa grande surprise, il voit le petit ballon commencer à monter vers le plafond. Alors immédiatement, il a l'idée de construire un ballon susceptible de vaincre enfin la pesanteur. Et avec son frère Étienne, il se lance dans la fabrication de ballons de plus en plus grands, faits avec des bandes de coton et de toile, de bandes de papier. Et le premier test des frères Montgolfier va avoir lieu en avril 1783 à Nonet, avec un ballon d'un volume de 800 mètres cubes, tenu par quatre ouvriers de l'usine. Et le ballon est lancé au-dessus d'un feu de laine et de paille, et la force ascensionnelle du ballon est inattendue. Hein. Il ne pensait pas que ça allait s'envoler comme ça, et les quatre ouvriers d'ailleurs s'envolent avec le ballon, et heureusement ils lâchent les lanières un petit peu en l'air, et ils retombent sans se faire mal. Et puis finalement, on retrouve le ballon un kilomètre plus loin. Donc on connaît la suite, hein, se lancer dans... Excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre, je le fais tout de suite. On connaît la suite, hein, de la Montgolfière. Entre-temps, les Français et les Espagnols avaient levé le siège de Gibraltar. Un deuxième exemple... j'aime beaucoup, c'est dans un exemple dans le domaine des transports, dans le domaine de transport public, qui m'a été raconté par l'ancien directeur de la prospective de la RATP. C'est l'invention de Georges Amar, pardon, c'est l'invention de l'omnibus. En 1825, donc il y a presque deux siècles, vous aviez un colonel d'Empire qui s'appelait Stanislas Baudry. Et il était en demi-solde à Nantes, il met en service une minoterie à vapeur dans les faubourgs de Nantes, à Richebourg. Et puis, il a l'idée d'utiliser l'eau chaude de sa minoterie pour créer et ouvrir des bains-douches publics. Problème, personne n'y va. Alors, le colonel a une explication très très rationnelle hein, à ça. Il pense que son établissement est trop éloigné du centre de Nantes. Alors, il met à la disposition des Nantais un moyen de transport pour venir à Richebourg, une navette avec une voiture à cheval depuis Nantes. Le succès est immédiat, les voitures sont pleines à craquer, mais à la grande surprise du colonel, les bains-douches restent vides. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ferme ses bains et sa minoterie et il crée un réseau d'omnibus à Nantes. Il invente les transports publics. Il a compris sa première erreur. Les Nantais n'avaient aucune envie de se laver. Ils avaient envie de voyager, d'être transportés. Être transporté, c'est être porté dans un autre endroit, hein, par l'imagination. ou physiquement, par un moyen matériel, mais c'est aussi une expérience extraordinaire. Ça peut être une expérience d'émotion, de plaisir. Alors pourquoi omnibus, hein? On peut se demander pourquoi. Eh bien, le mot omnibus, hein, qui donnera plus tard pédibus, à pied, bus, abréviation d'autobus, Airbus, etc. Eh bien, parce que les voitures stationnaient devant la boutique d'un chapelier. Un chapelier qui s'appelait Monsieur Omnes. Monsieur Omnes aimait le latin et il avait inscrit en grosses lettres sur l'enseigne de sa boutique Omnes Omnibus. Littéralement, Omnes pour tous. Et les gens qui prenaient les voitures avaient l'habitude de dire on va à Omnibus. Et c'est comme ça que les voitures, pour tous, devinrent des omnibus. C'est joli comme histoire. Troisième exemple, je change de domaine, le domaine de l'archéologie, cette fois. Et il s'agit de la fabuleuse découverte de la tombe de Toutankhamon, 1922. Alors cet exemple, il est intéressant. Pourquoi? Parce que ceux qui s'en tiennent à la définition courante de la sérendipité, trouver par hasard ce qu'on ne cherchait pas, en ont conclu qu'il était dénué de sérendipité parce que le chercheur savait où chercher et qu'il n'y a pas eu de hasard. Alors je vous laisse juger, parce que je vais vous raconter comment cette découverte a été faite. J'ai lu, en lisant le récit de cette découverte par l'auteur lui-même, c'est-à-dire Howard Carter, dans un livre qui a été traduit en français, qui s'appelle « La fabuleuse découverte de la tombe de Toutankhamon ». parce que la question à se poser n'est pas savait où chercher, c'est de savoir comment il a su où chercher. C'était ça la bonne question. Eh bien, la réponse se trouve dans son livre. En 1914, donc c'était un égyptologue, Howard Carter, reprend avec son mécène anglais la concession d'un site qui avait été abandonné par son prédécesseur, c'est un autre archéologue qui s'appelait Theodore Davis. Ce Theodore Davis avait fini par renoncer à fouiller, il était persuadé, vraiment convaincu que la vallée des rois n'avait plus rien à livrer. Et certains détails attirent l'attention de Carter, des détails que d'autres archéologues ont négligés. C'était les zones de déblais couvertes par les expéditions antérieures qui, selon lui, n'avaient pas été correctement examinées. Son prédécesseur Davis avait trouvé une tasse de faïence au nom de Toutankhamon qui était cachée sous une pierre. 2 ans plus tard, dans la même région, il était tombé sur un petit caveau où il avait découvert des fragments de feuilles d'or à l'effigie du jeune pharaon et de son épouse. Davis a cru qu'il s'agissait de la sépulture de Toutankhamon. Mais en fait, la tombe en question était toute petite, insignifiante. Elle n'avait rien d'une sépulture royale de la 18e dynastie. Et donc, ça voulait dire que le matériel royal qui avait été déposé là avait été déposé à une date postérieure. Et près de ce caveau, Davis avait également mis à jour de grandes jarres en terre cuite, scellées, qui étaient ornées d'inscriptions, mais il n'avait pas prêté attention à leur contenu. Il y avait des seaux d'argile qui portaient le nom de Toutankhamon, et divers objets qui constituaient apparemment le matériel funéraire du pharaon. Alors comment Davis a su où chercher ? Eh bien, il a procédé à la manière des princes de Serendip. Il a interprété les indices. Il a établi des corrélations qui l'ont convaincu que la tombe se cachait près du centre de la vallée. Pourtant, toute la vallée avait été ratissée à ce moment-là. Il a donc décidé de se concentrer sur les zones de déblais couvertes par les expéditions antérieures. Et finalement, cinq saisons de fouilles, qui avaient été d'ailleurs ralenties par les aléas de la Première Guerre mondiale, son mécène menaçait d'abandonner à ce moment-là, et il découvre, le 4 novembre 1922, l'entrée de la tombe de Toutankhamon dans la vallée des rois, alors que tout le monde avait renoncé à la chercher à cet endroit. Il a découvert des indices, il a prêté attention à des détails que d'autres avaient négligés, il a établi des corrélations. C'est comme ça qu'il a découvert la tombe. Donc, à la manière des princes de Serendip. Donc c'est quand même un petit peu paradoxal de dire que c'est un exemple de non-sérendipité, si vous voulez. Ces exemples, et bien d'autres, que je n'ai pas le temps de reprendre, de citer ici, montrent tous que c'est la sérendipité qui est le moteur de la découverte. Reconnaître sa centralité dans les processus de découverte et de création, et bien ça implique de prendre en compte la subjectivité, la part de subjectivité, la part d'imagination, la part d'inconscient dans la production des savoirs, et surtout le besoin de liberté des chercheurs. Or, le plus souvent, qu'est-ce qui se passe ? Les scientifiques rationalisent a posteriori le processus de découverte. Les contraintes de la publication sont telles, elles imposent des normes, un résultat doit toujours être obtenu et présenté selon un formalisme rigoureux. On part d'une hypothèse et on déroule ensuite ce qu'on a fait. Et les conclusions sont donc présentées comme découlant directement de l'hypothèse de départ, de manière logique et directe. Du coup, bien sûr, tous les éléments surprenants, toutes les erreurs, tous les facteurs inconnus qui ont donné les résultats sont passés sous silence. toute trace de subjectivité est éliminée. Un article scientifique, on ne voit pas de « je » dans un article scientifique. Hein. Toute trace de subjectivité est éliminée, et a fortiori, bien sûr, les indices de sérendipité. Et c'est d'ailleurs le même modèle qui est enseigné à l'école. On forme les élèves au raisonnement déductif, aller des prémices vers la conclusion, au lieu de leur faire pratiquer le raisonnement inductif, c'est-à-dire aller de la conclusion aux prémices, ou de les encourager à imaginer des hypothèses et à les tester. Or, chacun sait qu'il faut s'étonner pour apprendre. Donc, c'est un petit peu dommage que ce modèle soit encore appliqué à l'école. La démarche sérendipienne commence justement par l'étonnement face à quelque chose d'inattendu et par l'intérêt ou l'attention que la personne y prête. Elle dépend également de sa curiosité, bien sûr, hein, et de ses connaissances préalables. Alors effectivement, on ne peut pas prévoir la sérendipité, mais on peut en revanche la favoriser, la cultiver. Et ça passe par des environnements ouverts, ça passe par des environnements ouverts à l'altérité, à des espaces à idées, des rencontres, des séminaires, des espaces qui stimulent le questionnement personnel, les recherches exploratoires, les échanges entre chercheurs de disciplines différentes, par exemple, ou entre des professionnels qui ont des manières de voir ou de faire très différentes. Alors, je vais évoquer en guise de conclusion un autre point important dont j'ai parlé au début de ma présentation, la réémergence du mot avec Internet et les formes d'utilisation créative de l'information. Le mot sérendipité a commencé à se diffuser en France à partir des années 1950, dans le sillage de la cybernétique, mais à ce moment-là, il a rencontré qu'un très très faible écho. Et sa réémergence avec Internet et sa vogue actuelle sont liées, à, comme vous le savez sans doute, à un phénomène d'engouement qui est lié au développement du web et des outils de recherche d'information qui ont favorisé et amplifié ce phénomène d'engouement. C'est-à-dire le plaisir et la surprise de la rencontre inattendue. On cherche sur Internet et on tombe sur des choses qu'on ne cherchait pas et qui surprennent et qui retiennent l'attention. Eh bien, les moteurs de recherche de première génération, qu'on a peut-être tous connus ici quand même, fournissaient cette possibilité de multitude de liens, de liens surprenants, de liens incongrus, qui pouvaient inciter en retour à des stratégies exploratoires. Ces moteurs de première génération permettaient de surfer, de naviguer réellement sur Internet. On surprend aujourd'hui des pionniers des cultures numériques dire « Oh, le bon vieux temps d'avant Google !» Parce que la sérendipité propre à ce type de navigation a en effet totalement disparu. Avec la logique automatisée du ranking de Google, qui règne désormais sur la toile, hein, eh bien, ça préoriente nos choix, ça canalise notre attention et ça nous dirige implacablement vers ce que nous cherchons, vers ce que nous voulions trouver. Tout en biaisant d'ailleurs discrètement les résultats, de façon à maximiser les rendements financiers. Alors, étant donné l'engouement des internautes pour la sérendipité, eh bien, la notion a été l'objet d'une instrumentalisation massive par les moteurs de recherche, mais aussi par les réseaux sociaux, et entretenant du coup l'idée que on pouvait transférer à la machine la compétence interprétative de l'être humain. Or, la sérendipité n'est pas plus programmable qu'elle n'est planifiable. Tout simplement parce qu'elle dépend, elle procède de l'interaction entre un fait, entre une observation inattendue et son interprétation, et qu'elle relève du rapport singulier que l'individu entretient avec la connaissance. D'ailleurs, il y a deux choses qu'un ordinateur ne sera jamais capable de faire, c'est la créativité et la responsabilité. Ce sont les deux choses qui sont impossibles à faire par un ordinateur. Alors, favoriser les formes d'utilisation créative de l'information, ça passe au contraire par l'accès libre aux ressources documentaires, par le développement d'outils et d'environnements augmentés, partagés, qui sont susceptibles justement de stimuler les approches individuelles ou bien collectives de la sérendipité. Des stratégies autonomes de recherche dans les ressources documentaires, des stratégies autonomes de recherche et de découverte qui sont capables de croiser librement les savoirs. Les bases de données notamment, j'en donnais un exemple dans mon livre, ces bases de données représentent d'énormes gisements potentiels de découverte. Or, vous avez beaucoup de travaux en sciences de l'information qui rendent compte de l'exploration de ces voies actuellement, mais on se rend compte que les projets franchissent rarement les frontières disciplinaires. Or, la séparation des disciplines et des spécialités empêche aussi de repérer les connexions entre des domaines de savoir et les relations pertinentes qui seraient éventuellement porteuses de découvertes. Il y a un énorme travail à faire au niveau des connexions possibles entre des disciplines éloignées. C'est d'ailleurs comme dans l'exemple que je raconte dans mon livre, c'était le cas, c'est-à-dire que c'est un chercheur en sciences de l'information qui était physicien et qui s'interrogeait sur... qui était intrigué par... Il découvre, si vous voulez, que en mettant... à partir de mots-clés, si vous voulez, il découvre que... je ne vais pas détailler la découverte, mais il s'appelait Don Swanson. Il découvre que il y a une relation entre des recherches qui ont été faites en chimie et des recherches qui ont été faites en médecine, donc deux domaines qui n'étaient pas corrélés, et ça l'amène à faire une grande découverte, si vous voulez, par rapport à une maladie qui est la maladie de Raynaud, c'est-à-dire où le sang ne circule plus dans les extrémités. Voilà. C'est une découverte qu'il a pu faire parce que justement, ça me semble très important, parce qu'il a pu mettre en relation des bases de données, des articles scientifiques qui n'étaient pas connectés entre eux, si vous voulez. Il n'y a pas de lien de pertinence. Tout ça en cherchant à partir d'un étonnement, d'une question qui se posait et comment dire, d'un mot, de mots-clés qu'il a pu mettre en... C'est comme ça qu'il a pu mettre en relation ses bases de données. Voilà, je ne vais pas m'étendre davantage. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je suis prête à répondre à vos questions. Voilà. Merci.
Avant de vous laisser la parole, j'ai... alors, une question un peu... peut-être un peu longue... et une un peu plus courte, j'en garderai d'autres encore, je peux en garder d'autres encore. À la lecture de votre ouvrage, vous n'avez pas parlé de la psychanalyse, vous n'avez pas parlé de tout, et entre autres, vous avez cité Lacan, et on voit bien, à un moment donné, vous faites allusion, quand vous parlez de Freud, à la psychanalyse, et on voit bien que la sérendipité est quand même très proche de l'association libre... Ce qui est très... très intéressant dans votre travail, c'est qu'on arrive à petit à petit à retrouver le fil d'un concept qui va d'un conte oral jusqu'à aujourd'hui la mise en commun de données, voilà, et qui passe aussi par la psychanalyse. Mais au fond, la question que je voulais vous poser, qui me semble être, m'intéresse vraiment, c'est pourquoi vous êtes intéressé à ce concept, au fond ? C'est une formation personnelle, c'est un intérêt personnel, c'est parce que vous avez trouvé par hasard, justement, vous êtes tombé dessus par hasard. Comment ça se... Parce que, encore une fois, lire cet ouvrage, c'est un ouvrage d'érudition. On peut aller sur votre site Et on retrouve, hein, c'est ce que vous nous dites, toutes les archives des contes depuis pratiquement leur origine. Et puis on va, et quand on lit, on a en effet tous les sociologues, on a en effet tous les scientifiques, mais aussi, alors, aux États-Unis, vous parlez de Fleming, vous parlez en France de Jean Perrin, enfin, bon, jusqu'à y compris. Mais alors, pourquoi vous êtes intéressé justement à ce concept-là et à ce mot-là ?
C'est quand je faisais ma thèse, en fait, que j'ai commencé à m'y intéresser, parce que je m'intéressais justement à l'enquête. Je m'intéressais à l'enquête, à la figure de l'enquête et du labyrinthe dans les jeux, c'était dans les années 90, hein, dans les jeux multimédia et dans les fictions multimédia. Et j'étais tombée sur un... Et c'est là que je suis tombée sur un article de l'historien Carlo Ginzburg sur la sérendipité et sur le paradigme indiciaire. Et ça m'a énormément... Alors là, je veux dire, ça a retenu mon attention. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et j'y suis revenue après. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment comme ça que fonctionnait la recherche, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire, on prête attention à quelque chose. Parce que ça nous surprend. Parce qu'on est intrigué. Parce que... Et c'est à partir de là qu'on va avancer, explorer, découvrir, inventer. Je me suis rendu compte que c'était le ressort de la recherche. Et j'avais lu également, alors c'est en lisant, hein, bien évidemment, que j'ai parce qu'au départ, l'histoire des trois princes, quand j'ai lu le conte, hein, ça ne m'a pas inspiré grand-chose sur le moment. Mais en lisant le chimiste Jean-Jacques aussi, c'était il avait écrit un article très intéressant sur la sérendipité dans une revue, sur le vocabulaire scientifique, une revue du CNRS, hein, et de l'INALF, l'Institut National de la Langue Française. Et alors là, ça aussi, ça attire mon attention. Parce que les gens se contentent de dire « Ah, le mot a été forgé en 1754 par Horace Walpole », et puis on s'arrête là. Un conte persan, bon. Or, Jean-Jacques était chimiste, s'est intéressé à la lettre de Walpole, justement. Et c'est, ça aussi, ça m'a passionné, si vous voulez.
Et c'est ce que je trouve vraiment tout à fait intéressant dans votre travail, c'est que là aussi, enfin, c'est ce que vous dites, hein, et heureusement d'ailleurs, vous ne vous limitez pas à une discipline. Et comme l'était Jean-Jacques, c'est-à-dire quelqu'un qui à la fois avait une vision historique, une vision sociologique, une vision scientifique du travail. Et on retrouve bien ça dans ce que vous décrivez ici. Alors après, mais je vais laisser la parole à la salle, j'aurais pu vous demander, par exemple, est-ce que vous avez lu Pierre Bayard, qui lui, sur un domaine différent, quand même à des points de recoupement avec ce que vous faites, entre autres sur la psychanalyse, mais aussi sur la rigueur du travail intellectuel, parce qu'il fait semblant de faire un peu le zouave, mais en fait pas du tout. C'est quelqu'un d'extrêmement sérieux.
J'ai beaucoup apprécié, notamment son ouvrage sur Hamlet, et qui a tué Roger Ackroyd sur le roman d'Agatha Christie, qui m'a beaucoup inspiré aussi. Hein. C'est quelqu'un de très intéressant, Pierre Bayard. Ouais.
Que nous avions souhaité faire venir ici il y a quelques années, qu'il avait décliné pour une raison que je trouve vraiment très belle. Il a dit « je préfère aller chez les libraires ». Et donc il était allé à la librairie Passage, et c'est là que je l'avais rencontré.
Ah, d'accord.
Et il m'avait dit « non, mais je préfère venir chez les libraires parce que c'est quand même la librairie qui à la fois vend et puis qui est le lieu du livre aussi ». Voilà. Bon, à vous.
Et dans le travail des archives aussi, il doit y avoir ce genre de... fréquemment, ce genre de découvertes, j'imagine.
En tout cas, on peut l'imaginer. J'aimerais que vous reveniez, pendant que se forge ou pas la question, ou les questions, s'il n'y en a pas, que vous reveniez sur la réflexivité que vous développez en partie dans votre ouvrage. Comme un mot... Là aussi, hein, un peu comme la psychanalyse... comme un moment ou un facteur un peu clé.
Oui, parce que quand je dis qu'il faut prêter attention à ce qui surprend, il faut, prendre conscience, finalement, de sa, propre surprise. Ça ne suffit pas d'être surpris. On est surpris continuellement par, des tas de choses, mais il faut prendre conscience qu'on est surpris et que ça a une importance. Et alors donc, il y a cette réflexivité au moment où, où ça se déclenche, et il y a la réflexivité aussi pendant la réflexivité de la découverte. Savoir que l'hypothèse ou l'hypothèse explicative va être est la bonne. Et pouvoir s'engager justement sur, sur ce chemin de travail, quoi. Ça exige une très très forte réflexivité sur ce qu'on est en train de faire, mmh. sur son propre engagement. Qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Ça oblige d'y penser. Parce que justement, on n'est absolument pas sûr, c'est improbable, on n'est pas sûr de ce qu'on va trouver. Et, voilà, beaucoup... de chercheurs. Alors c'est très rare, hein. je suis tombée sur, sur cet article où on voit justement deux sociologues qui interviewent deux chercheurs en pathologie expérimentale qui ont fait la même découverte, mais l'un, enfin qui faisait les mêmes recherches, mais l'un n'a pas poursuivi sa recherche. Parce que il pensait que le domaine en question n'était pas porteur, et puis bon, il y avait donc des préjugés. Hein, c'était à propos du cartilage, hein, des recherches sur le cartilage. Et l'autre, il n'y a pas du tout prêté attention. Et en fait, le premier chercheur qui a été amené à faire une découverte s'est retrouvé dans la même situation. Que quand il était dans son laboratoire devant ses étudiants. C'est-à-dire il a refait l'expérience qui était surprenante. C'était, on injectait de la papaïne à des lapins et on voyait leurs oreilles tomber, comme ça. Et donc ça faisait beaucoup rire les étudiants.
Oui.
Mais après, ça revenait. Hein, c'était pas un processus irréversible. Et du coup, les étudiants ont demandé à leur prof, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui occasionne ça ? Et le prof a été vexé de ne pas pouvoir répondre à ce moment-là. Et il a entrepris des recherches après. Bon, il avait des moyens, il avait du temps à ce moment-là, il a pu le faire. Et ça l'a amené à une découverte, vous voyez. Donc il y a aussi quelque chose de social, vous voyez, là-dedans. C'est vraiment, c'est très intéressant, ce genre de...
C'est un puissant fond, en fait.
Ah oui, oui, oui.
Là, vous y êtes, vous n'en sortirez pas.
Ben, je me demande. Je voudrais bien passer à autre chose, pourtant. Non, ce qui m'intéresse énormément aussi, c'est l'indisciplinarité.
Oui.
C'est, d'ailleurs, on a été, avec Laurent Lotti qui a écrit la préface et qui a beaucoup travaillé sur l'histoire de ce mot, mais qui l'a conceptualisé, c'est, ça procède un petit peu de la même démarche que la sérendipité, c'est-à-dire construire une démarche de recherche à partir de son étonnement, mais pas forcément dans une discipline, c'est-à-dire on croise tout... Ça peut être contre sa discipline, si sa propre discipline s'oppose ou à l'enquête, si vous voulez. Donc, c'est une démarche qui vise à croiser librement les savoirs. Et donc, je trouve ça très... Et ça m'intéresse énormément. Et on est en train de travailler là-dessus, sur un colloque, hein, on est en train de monter avec des étudiants. Et puis, je pense, dans un an ou deux, un colloque qui va avoir lieu au CNRS. Parce que là, maintenant, ça commence à prendre de l'ampleur. Surtout en ce qui concerne les recherches sur le climat, où là, on ne peut pas rester dans une discipline, hein, clairement. Forcément, il y a des hydrologues, des climatologues, des gens qui travaillent sur la glaciation, des géologues, des sociologues, etc. Donc, forcément, il faut sortir de sa discipline. Mais comment on fait ? Pour des gens qui ont été formés dans une discipline avec des concepts, des outils, des méthodes, de parler, d'échanger avec des chercheurs d'autres disciplines. c'est pas du tout évident, ils se comprennent pas forcément, ils n'ont pas les mêmes approches. Et donc on est en train de travailler là-dessus, si vous voulez, pour essayer de faire des ponts, hein, des outils de médiation entre les disciplines. Donc ça, c'est une... C'est un débouché possible de ce genre de recherche. Vous voyez, au départ, qui peut paraître abstrait, mais qui, au contraire, se révèle très utile, même sur le plan des recherches appliquées. Et puis, bon, il y a tout ce qui concerne le rapport entre science et littérature, qui, moi, me passionne, hein, c'est clair.
Ah ben, mais ça se sent, tout, ça se sent, ça se voit, ça se lit. Vraiment, vraiment. Enfin, d'ailleurs, moi, j'ai été piégé par... piégé, si je peux dire. Hein. Sciences ouvertes, la collection, ça, je connais. Puis... Mais tout de même, par le début. Et on prend quand même toujours un livre, un peu par son entame, par quoi ça commence. Et dès le début, hop, on est dans une espèce de conte qui nous emmène bien au-delà, et où vous êtes arrivé après sur les données numériques, mais pendant un bon tiers de l'ouvrage, on est là-dessus quand même. Et ça, en effet, c'est bien parce que il y a chez vous, et il y a chez vous un amour de la littérature. Enfin, il me semble, en tout cas. C'est pour ça que je pensais à Pierre Bayard en lisant cet ouvrage. On peut continuer à parler tous les deux, hein. Mais ceci dit, si vous n'avez pas d'autres, si vous n'avez pas de questions particulières, on peut aussi arrêter. S'il y a une question particulière.
En fait, quelle application croyez-vous ce concept de renseignement universitaire pour les disciplines parce qu'il
faut davantage de savoir? Eh bien, ça commence par... ça peut commencer par la démarche projet, par exemple. Je parle à l'école. Où autour d'un projet se réunissent différentes compétences, différents enseignants, des étudiants, etc. Et là, on peut commencer à dialoguer. C'est dans l'espace de dialogue que ça naît, ce genre d'idées saugrenues. C'est encourager les gens, finalement, les élèves, les étudiants, mais même les adultes, à se lancer dans des projets. À tester des idées. J'en ai même parlé avec un chercheur à Dijon, là où j'ai fait l'ouverture des journées doctorales des universités de Franche-Comté et de Bourgogne, et on disait ça serait intéressant d'ouvrir une plateforme ou une revue, même une revue, je pense, qui serait consacrée à ça, c'est-à-dire tous les projets comme ça, où qui ont été montés, où les gens se lancent, quoi, et vont échanger. Vous voyez, c'est pas seulement le chercheur dans son coin, c'est toute une communauté qui est réunie autour de ça. Et tout le monde va lancer des idées, voilà, sans aucune gêne, les idées même les plus farfelues, et ça peut aboutir. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée, je pense. Et dans la démarche projet, dans l'école, elle s'y prête très très bien, si vous voulez. Hein. On met plusieurs disciplines ensemble. On crée des synergies entre les arts et les sciences, par exemple. La littérature, les arts et les sciences. Vous savez, je ne suis pas forcément admiratif du système éducatif américain, mais j'ai passé un an dans une université américaine. Et je me suis rendu compte que là-bas, on peut très bien créer un cours littérature et biologie, c'est aucun problème. Vous faites ça ici, en France, on vous regarde avec des yeux ronds, quoi. C'est littérature et biologie, c'est... Vous voyez, on est vraiment très, comme ça, dans nos œillères disciplinaires, quoi. C'est un petit peu dommage, il faut que les choses bougent. Je pense qu'avec... peut-être avec les nouvelles générations, là, ça va peut-être bouger un petit peu.
Il me semble que, d'après ce que vous dites, et puis pour répondre aussi, je sais pas, à la question que vous posez, il me semble qu'on est à une espèce de carrefour, où à la fois, en effet, ça c'est des propos battus et rebattus, mais l'arrivée du numérique, de la toile, qui permet une plus grande liberté, machin, tout ça, mais aussi la NSA derrière. Bon, bref, ça c'est un premier point. Mais pour ce qui concerne le système éducatif, de l'enseignement supérieur, de la recherche, voire même de la culture en France, on est dans un domaine qui rend les choses de moins en moins, les possibilités de travail par projet, comme vous venez de décrire, de moins en moins possibles. On a l'impression, j'ai l'impression, qu'il faut quand même très vite, arrive très vite l'idée de l'évaluation.
Oui.
Il faut évaluer ce qu'on a fait avant même d'avoir commencé.
Là, on passe son temps.
Et donc, et moi je trouve que ce que vous décrivez est pas une utopie, hein. C'est des choses qu'on a pu vivre à des moments, qu'il faut sans doute recréer, mais qui vraiment est un projet, alors au vrai et beau sens du terme, un vrai projet politique. C'est-à-dire qu'on peut plus, on crève quoi si on reste toujours dans nos rails, là, il me semble, en tout cas.
On parle que d'innovation,
oui.
On ne se donne pas vraiment les moyens quoi, de faire des recherches fondamentales. Tout, oui. Dans la recherche, il n'y a pas que le moment de découverte. Hein. Une fois que la découverte est faite, après, il y a tout un processus de stabilisation, de recherche qui est fait après. Hein. Donc, c'est un moment, effectivement, c'est le moment de la création, hein, c'est le moment de la créativité. Après, il y a tout le travail de la preuve, de l'expérimentation, du développement, d'application, de recherche. Hein. On entend partout qu'il faut être créatif, qu'il faut innover, et tous les appels d'offres qui émanent, ça commence à changer. Hein. Il commence à y avoir ce qu'on appelle les ANR blanches, par exemple. L'Agence nationale de la recherche propose des projets de recherche qui sont des recherches exploratoires. Il y a une prise de conscience actuellement, je pense que ça. Mais bon, on est tellement. Et aussi, il y a une telle concurrence. Au lieu de développer des collaborations, il y a une concurrence un peu stérile, je trouve, entre chercheurs, quoi, dans le milieu universitaire. Donc, développer, lancer des projets indisciplinaires ou interdisciplinaires, si vous voulez, où pourrait émerger justement les processus sérendipiens, de la sérendipité. Créer des espaces de dialogue, parce que c'est dans le dialogue aussi, dialogue avec soi-même ou avec les autres, hein, mais c'est dans le dialogue, c'est là où intervient justement la réflexivité. Ah ben, il faut une commission indisciplinaire. Voilà. Comme il y a eu d'ailleurs des sections interdisciplinaires, hein, il faut une section indisciplinaire. Voilà. Mais elle est absolument nécessaire, les disciplines sont absolument nécessaires, hein. On ne peut pas s'en passer, mais il faut savoir les envoyer balader, quand il faut, quand c'est important, quand c'est nécessaire. C'est ça que ça veut dire aussi. Hein. C'est pas contre les disciplines, on a besoin des disciplines. C'est absolument nécessaire. Sur le plan pédagogique, hein, sur le plan politique, sur le plan d'organisation. Hein. Mais il ne faut pas rester dedans voilà, avec des œillères, quoi, toute sa vie à faire le même. Il faut savoir en sortir. Donc c'est paradoxal. C'est éminemment une démarche paradoxale parce qu'on a besoin des disciplines et en même temps il faut pouvoir s'en passer. Vous voulez parler de la... Bien sûr qu'il peut y avoir de la sérendipité dans une discipline, hein. C'est même souvent le cas, plus souvent que la sérendipité indisciplinaire. Hein. J'ai pas bien compris votre question. Il n'y avait pas forcément... Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait.